إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوسنا قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح دبخا بنجيح العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه qui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous adressa une exhortation qui fit frémir les cœurs et couler les yeux. Nous lui dîmes alors « Ô messager d'Allah, on dirait l'exhortation de quelqu'un qui présente ses adieux. Adresse-nous donc une recommandation. » Il dit alors « Je vous recommande la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave. Ceux qui vivront parmi vous verront de nombreuses divergences. Suivez donc ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Accrochez-vous-y, mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux choses nouvelles. » Car toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, qui a dit « C'est un hadith bon et authentique. » Ceci est donc le 28e hadith mentionné par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans cet ouvrage. Al-Irbad nous rapporte donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam exhorta ses compagnons. Et l'exhortation, c'est le fait de rappeler des choses qui adoucissent le cœur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude d'exhorter ses compagnons de temps à autre. Il dit ensuite que cette exhortation, elle fit frémir les cœurs. C'est-à-dire que cette exhortation, elle les a effrayés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 2 de Surat al-Anfal, « Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum » Ceux dont les cœurs frémissent quand on évoque Allah, c'est-à-dire ceux qui craignent Allah, ceux qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on l'évoque. Et il dit également au sujet de cette exhortation qu'elle fit couler les yeux, c'est-à-dire que des larmes ont coulé de leurs yeux. C'est donc une image qu'il a donnée pour dire qu'ils ont pleuré, radiyallahu ta'ala anhum. Il dit alors qu'ils se sont adressés au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui ont dit, ô messager d'Allah, on dirait l'exhortation de quelqu'un qui présente ses adieux. Et ce, car cette exhortation, elle a eu de l'effet sur eux lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur adressa cette exhortation. En effet, celui qui écoute une exhortation, il est souvent touché par celle-ci, que ce soit par son sujet, mais aussi par l'apparence ou la gestuelle de celui qui est en train d'adresser l'exhortation. Car ceci a également un impact sur l'auditeur. Comme on le voit à notre époque, lorsque tu écoutes un sermon du vendredi et que tu es présent, cela a souvent bien plus d'effet que lorsque tu l'écoutes à travers un audio lorsqu'il a été enregistré. Et ce car le fait de voir le sermonneur dans son apparence et sa gestuelle lorsqu'il parle influe sur l'impact que cette exhortation aura sur ton cœur. Donc il dit qu'ils ont été touchés par cette exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont donc demandé une recommandation. Ils lui ont dit alors, adresse-nous une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui aura alors dit, je vous recommande la crainte d'Allah. Et ceci est la première chose par laquelle il a commencé cette recommandation sallallahu alayhi wa sallam. Et cette recommandation, elle est puisée du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset 131 de Surat An-Nisa, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Nous avons certes enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous, de craindre Allah. De craindre Allah. Donc la crainte d'Allah, c'est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala aux premières et aux dernières générations. Et c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Il dit ici, je vous recommande la crainte d'Allah. Et qu'est-ce que la crainte d'Allah? Il est important pour nous de connaître le sens de la taqwa afin de pouvoir suivre cette recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la taqwa, c'est le fait que tu obéisses à Allah subhanahu wa ta'ala en te soumettant à ses ordres et en t'écartant de ses interdits. Et ce, avec science et clairvoyance. C'est pour cela que certains ont mentionné, en explication de la taqwa, que c'est le fait que tu obéisses aux ordres d'Allah, d'une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire d'une connaissance, d'une science provenant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Et que tu délaisses les interdits d'Allah, d'une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire d'une connaissance, une science provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de son livre, ou bien de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, tout en craignant le châtiment d'Allah. On voit donc à travers la définition de la taqwa, l'importance de la science, l'importance d'apprendre la science religieuse pour pouvoir craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et certains ont dit, en parlant de la taqwa, qu'elle consiste à délaisser l'ensemble des péchés, qu'ils soient grands ou petits, et que celui qui craint Allah, il est semblable à une personne qui marche sur un terrain recouvert d'épines. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend garde à toutes les épines qu'il voit. Toutes les nuisances qu'il y a sur ce chemin, il fait en sorte de s'en écarter, de les éviter. Et celui-ci, c'est l'exemple de celui qui craint Allah. Il s'écarte de l'ensemble des péchés, qu'ils soient petits ou grands. Et tu ne dois pas penser qu'il n'y a que les grands péchés desquels tu dois t'éviter. Mais tu dois prendre garde aussi aux petits péchés. Et tu ne dois pas mépriser les petits péchés. En effet, si tu veux comprendre le danger des petits péchés, tu dois méditer sur la grandeur des montagnes. De quoi sont-elles faites? Elles ne sont faites que de petits cailloux. Donc tu ne dois pas mépriser le danger des petits péchés. Car le petit péché, il mène au grand péché. Et le grand péché, il mène à l'innovation. Et l'innovation, c'est la porte de la mécréance et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu tombes dans un péché, que le diable réussit à te faire tomber dans un petit péché, tu ne dois pas penser que c'est simplement cela son objectif. Mais il cherche à te tirer plus loin. Et il va te tirer vers un grand péché. Il en est de même pour le grand péché. La personne qui est tentée par différentes sortes de grands péchés, elle essaye d'y résister. Si elle se laisse aller dans ce grand péché, elle doit se rappeler que ce grand péché, ce sera une porte vers une chose plus grave encore si elle ne se remet pas en question et ne revient pas à Allah subhanahu wa ta'ala par le repentir. Donc tu dois prêter attention à cela. T'écarter des péchés, qu'ils soient majeurs ou mineurs, et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les fautes que tu commets. Et comme on l'a vu dans le hadith de Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, tu fais suivre la mauvaise action par une bonne qui viendra l'effacer. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vous recommande la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance. C'est-à-dire l'écoute et l'obéissance au gouverneur, au dirigeant des musulmans. En effet, il dit après, même si celui qui vous dirige est un esclave. Et l'écoute et l'obéissance, c'est le fait que tu écoutes le dirigeant lorsqu'il parle et que tu lui obéis lorsqu'il donne un ordre. Et regarde l'importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à cela, à tel point qu'il l'a mentionné en second lieu après la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'écoute et l'obéissance, cela fait partie de la crainte d'Allah. Cela fait partie des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala auxquels il incombe aux musulmans de se soumettre. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mentionné de par l'importance de cet ordre et de par le grand nombre de personnes qui transgressent à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, ceux qui vivront parmi vous verront certes de nombreuses divergences. C'est-à-dire ceux qui auront une longue vie parmi vous. Ils vont voir de nombreuses divergences. Des divergences dans la croyance, des divergences dans l'adoration, des divergences dans la méthodologie, En effet, les compagnons qui ont eu une longue vie, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont rencontré de nombreuses discordes et de nombreux maux, des choses auxquelles ils ne s'attendaient peut-être pas. Cependant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur a pas indiqué ce mal sans indiquer avec celui-ci son remède. Il les a donc orientés vers ce qu'ils devaient faire lors de la rencontre de ces divergences. Il leur a dit « Suivez donc ma sunna ». C'est-à-dire « Accrochez-vous à ma sunna ». Et ce qui est voulu ici par la sunna, c'est la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. La voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cheminé. Donc, il leur dit « Suivez ma sunna, ne vous écartez pas de ma voie et ne suivez pas une autre voie que celle-ci et ne vous écartez pas de ma législation. » Et la sunna des califes bien guidés. Les califes bien guidés, c'est-à-dire ceux qui ont succédé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa communauté. Et à leur tête, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. En effet, Abu Bakr est le premier des califes de cette communauté. Il est le premier à avoir succédé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a indiqué textuellement le fait qu'Abu Bakr soit son calife après lui. En effet, il a donné des indications à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, à ce sujet. À titre d'exemple, on peut mentionner le fait qu'une femme est venue au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet d'un besoin qu'elle avait. Elle lui a alors dit au messager d'Allah, « Et si je ne te trouve pas ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a alors dit, « Alors va voir Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. » Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum allahu ta'ala. Également, on compte parmi cela, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, pour diriger la prière aux musulmans lorsqu'il était malade, sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il l'a désigné en tant qu'émir pour les pèlerins durant la 9e année après l'Hégire, et ce afin qu'il le remplace et qu'il emmène les musulmans au pèlerinage. Tout ceci sont donc des indications qui nous montraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait désigner Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu comme calife après lui. Le deuxième calife, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Et il était radiyallahu ta'ala anhu la personne la plus en droit d'avoir le califat après Abu Bakr. En effet, ils étaient tous les deux compagnons les plus proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il est venu dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent, je suis allé avec Abu Bakr et Omar, je suis venu avec Abu Bakr et Omar, car ils étaient souvent en sa compagnie radiyallahu ta'ala anhuma. Ils étaient les deux compagnons les plus proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Omar, il a donc été désigné par Abu Bakr comme calife après lui, car Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu savait que Omar était la personne la plus en droit d'être calife après lui. Après cela, Uthman radiyallahu ta'ala anhu a été désigné calife par consultation entre plusieurs compagnons. Et après cela, le quatrième calife fut Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc ces quatre califes, ce sont les quatre desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint ici dans ce hadith de suivre leur sunna, de nous accrocher à leur sunna après la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, mordez-y avec vos molaires. C'est-à-dire, mordez ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Avec vos molaires. Et il est connu que la sunna, ce n'est pas une chose que l'on peut mordre. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ici une image pour nous montrer que nous devons fermement nous attacher à sa sunna et à la sunna des califes bien guidés, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite, il a dit, et prenez garde. Après avoir incité à s'accrocher à sa sunna, il nous met en garde contre le danger de l'innovation. Et prenez garde aux choses nouvelles, c'est-à-dire, écartez-vous-en. Écartez-vous des choses nouvelles, c'est-à-dire, les choses nouvelles en religion. Écartez-vous-en. Éloignez-vous de celles-ci. Et ce qui est visé, comme on l'a dit, ce sont les choses nouvelles en religion. Quant aux choses nouvelles, parmi les choses mondaines, elles ne sont pas concernées par ce hadith. Et il y a parmi elles des choses qui sont profitables et qui sont un bien. Et il y a parmi elles des choses néfastes qui doivent être délaissées. Quant aux choses nouvelles en religion, alors elles sont toutes mauvaises. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, car toute chose nouvelle est innovation. Et toute innovation est égarement. En effet, toute innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est un égarement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a explicitement dit dans ce hadith. Après cette explication concise de ce hadith, on va mentionner un certain nombre de bénéfices que l'on peut tirer de celui-ci. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith le fait qu'il est légiféré de faire des exhortations. Cependant, il convient que les exhortations soient faites au moment où elles sont nécessaires et qu'elles ne soient pas trop fréquentes au point que les gens s'en lassent. Car si les gens se lassent de l'exhortation, alors ils se lasseront aussi de celui qui exhorte. Et il se peut qu'ils soient ensuite moins motivés pour être présents à ses assises. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'exhortait ses compagnons que de temps à autre. Et certains de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, avaient pour habitude de n'exhorter leurs élèves qu'un jour par semaine. Et ce, afin de ne pas lasser les gens par l'exhortation. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il convient à celui qui souhaite exhorter les gens de choisir une exhortation qui va les toucher, en choisissant les bons termes pour adresser cette exhortation, et également en adressant d'une manière convenable, en choisissant la bonne manière d'adresser cette exhortation de par ses termes et de par la manière de les prononcer. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que celui qui écoute une exhortation touchante, alors celle-ci atteindra son cœur. Il sera touché par celle-ci. En effet, il a dit dans le hadith, elle fit frémir les cœurs et couler les larmes. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que si le cœur frémit, alors les yeux pleurent. En effet, lorsqu'une exhortation fait frémir ton cœur et qu'elle atteint ton cœur, alors ceci fera pleurer tes yeux. Alors que si le cœur est dur et qu'il ne s'adoucit pas à l'exhortation, alors les yeux ne pleureront pas et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la dureté des cœurs. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que l'exhortation de celui qui présente ses adieux, elle est plus touchante que l'exhortation d'autrui. En effet, celui qui présente ses adieux, il quitte son peuple par exemple, il quitte sa famille, alors il va leur adresser une exhortation qui est touchante, car il n'aura pas l'occasion de les exhorter à nouveau après cela. Et on tire cela de sa parole, de la parole d'Al-Arbad, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, on dirait l'exhortation de quelqu'un qui présente ses adieux. Le sixième bénéfice que l'on tire de ce hadith, il est qu'il est permis à la personne de demander au savant de lui adresser une exhortation. Et ce, d'après la parole des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui ont dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors adresse-nous une recommandation. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que la chose la plus importante qui est recommandée aux serviteurs, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous recommande la crainte d'Allah. Il a commencé par cela, car c'est la chose la plus importante qui peut être recommandée aux serviteurs. Et le huitième bénéfice donc, c'est le mérite de la taqwa. Car comme on l'a dit, c'est la chose la plus importante et la première chose qui est recommandée aux serviteurs. Cela nous montre donc son importance et son mérite. Et ce, de par le fait que la taqwa, en réalité, elle englobe l'ensemble de la religion. Comme on l'a dit, elle consiste à obéir à Allah en te soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits avec science et clairvoyance. Le neuvième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'écoute et l'obéissance aux dirigeants. Et l'écoute et l'obéissance, elles sont obligatoires d'après les textes du Coran et de la Sunna. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 59 de Surat An-Nisa, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi que ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Il a donc mentionné l'obéissance aux dirigeants après l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, médite sur le verset. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de l'obéissance aux dirigeants, il n'a pas répété le verbe. Il a dit « Obéissez à Allah, obéissez aux messagers, ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. » Et ce, car l'obéissance aux dirigeants, elle est subordonnée à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si le dirigeant, il ordonne la désobéissance à Allah, ou il ordonne la désobéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors on ne doit pas lui obéir. Mais son obéissance, elle est subordonnée à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'obéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui apparaît dans les hadiths, c'est que cette obéissance aux dirigeants des musulmans, elle nous incombe, même si lui, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il accomplit des grands péchés. Cependant, s'il t'ordonne la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu ne lui obéis pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Mais s'il fait des péchés et qu'il ne t'ordonne pas de les commettre, alors dans ce cas-là, tu dois lui obéir. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoute et obéis, même s'il frappe ton dos et prend ton argent. Il n'y a pas de doute que si les gouverneurs frappent ton dos et qu'il prend ton argent sans aucune raison légiférée, alors ceci est un péché. Ceci est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, tu lui dois écouter obéissance. Donc on voit à travers cela l'erreur de nombre de personnes à notre époque qui disent « Moi, je n'obéis pas aux dirigeants. Est-ce qu'il obéit à Allah, lui ? Il fait des péchés, il a fait telle chose et telle chose qui sont interdites. Ceci ne te concerne pas. Toi, tu es soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam de lui écouter et de lui obéir. Et ces péchés sont entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'as pas à les propager. Tu n'as pas à les diffuser sur les réseaux sociaux, sur internet ou autre. Tu n'as même pas à en parler. Ces choses, elles sont entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Son bien, il est pour nous et ses péchés, ils sont contre lui. Cependant, s'il t'ordonne le péché, alors il n'y a ni écoute ni obéissance. Car comme on l'a dit, l'écoute et l'obéissance, elles ne sont que dans le convenable. Et s'il y a une question qui est liée à ce sujet, que beaucoup de personnes se posent, c'est lorsque l'on part en voyage et que l'on désigne parmi nous un émir. Est-ce qu'on est obligé de lui obéir ? Et la réponse, comme l'ont mentionné les gens de science, est que son obéissance est obligatoire. Sinon, quel serait l'intérêt de désigner un émir si on ne devait pas lui obéir ? Il n'y aurait aucun intérêt à désigner un émir si son obéissance n'était pas obligatoire. Cependant, son obéissance, elle n'est obligatoire que dans les questions liées au voyage, et non pas dans les choses qui ne sont pas liées au voyage. Cependant, s'il ordonne une chose qui n'est pas liée au voyage, il n'est pas permis de se révolter contre lui. À titre d'exemple, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il mentionne, c'est par exemple l'émir d'un groupe en voyage, il dit, « Aujourd'hui, il va faire froid, que chacun d'entre vous mette deux vêtements. » Alors ici, il n'est pas obligatoire de lui obéir. Cependant, il n'est pas permis de s'opposer à lui. Comme le fait qu'une personne se lève et dise « Moi, je ne mettrai pas de vêtements. » Car le fait de s'opposer à l'ordre du dirigeant de l'émir, c'est une forme de désobéissance. Même dans les choses dans lesquelles tu n'es pas soumis à son obéissance, tu ne dois pas t'opposer à son ordre. Dixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il contient un signe parmi les signes de la prophétie de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il dit dans ce hadith, « Celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. » Et ceci s'est passé au sein de la communauté comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé. Comme on l'a dit, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ceux qui ont vécu parmi eux, ils ont vu ces divergences. Ils les ont vécues. Ils y ont fait face. Et plus le temps passe, plus les divergences augmentent entre les musulmans et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous unir sur la vérité. Onzièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le remède face aux divergences. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué un mal, mais il nous a indiqué avec celui-ci son remède. Et le remède face aux divergences, c'est quoi ? C'est de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Accrochez-vous à ma sunna. Suivez ma sunna. Et ceci est une obligation de manière générale. Mais lorsque surviennent les divergences, l'obligation, elle augmente. Il nous incombe encore plus de revenir à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin de distinguer le vrai du faux et de suivre sa voie et de ne pas dévier de celle-ci. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est qu'il est obligatoire pour le musulman d'apprendre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, « Suivez ma sunna. » Mais comment peux-tu suivre sa sunna si tu ne connais pas sa sunna ? Donc cet ordre, il implique l'obligation d'apprendre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, afin de pouvoir t'y accrocher, de suivre sa sunna et la sunna de ses califes bien guidés. Le treizième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que les califes bien guidés, après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont une sunna qui doit être suivie. Et elle fait partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de par son approbation de celle-ci. En effet, il les a approuvés du fait qu'il a recommandé, ici, de suivre la sunna de ces califes bien guidés. Et on tire de cela l'erreur de ces personnes qui prétendent suivre la sunna, mais qui en même temps rejettent une partie de celle-ci. Comme ceux qui ont dit, au sujet du premier adhan du vendredi, que c'est une innovation, sous prétexte qu'il n'était pas connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est seulement la sunna de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu. On dit donc à ces gens qui qualifient cet adhan d'innovation, est-ce que la sunna de Uthman n'est-elle pas une sunna à laquelle on doit s'attacher tant qu'elle ne s'oppose pas à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et la réponse bien sûr est que oui, c'est une sunna à laquelle on doit s'attacher d'après le texte de ce hadith, accrochez-vous à ma sunna, suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Quatorzièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith un encouragement à s'attacher fermement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à la sunna de ses califes bien guidés. Et ce, d'après sa parole, mordez-y avec vos molaires. Quinzièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith la mise en garde contre les innovations, contre les choses nouvelles en religion. Quant aux choses nouvelles liées aux affaires de ce bas monde, alors comme on l'a dit, il y a parmi celles-ci, celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il nous met en garde contre quoi? Contre les choses nouvelles en religion, les nouvelles croyances, les nouvelles paroles et les nouvelles œuvres en termes d'adoration. Toute chose nouvelle en religion, qu'elle soit petite ou grande, c'est une innovation, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et certains pourraient dire, comment réunit-on entre cela et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans un autre hadith, celui qui instaure en islam une bonne sunna, il aura alors sa récompense et la récompense de ceux qui la mettent en pratique jusqu'au jour de la résurrection. Premièrement, il faut savoir qu'il n'y a pas de contradiction dans les textes du Coran et de la Sunna, car ce sont des révélations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sens de ce hadith, quiconque instaure en islam une bonne Sunna, c'est-à-dire celui qui commence une œuvre qui est légiférée à la base, qui montre l'exemple dans l'accomplissement de cette œuvre, comme le prouve clairement le contexte de ce hadith. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quelle occasion il a prononcé cette parole? Il a dit cela alors qu'il encourageait ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, à donner des aumônes à un groupe de gens nécessiteux. Alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils venaient avec ce qu'ils pouvaient. Et c'est alors qu'un homme parmi les Ansar, il est venu avec une grande bourse, très lourde. Il l'a posée devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit suite à cela, quiconque instaure en islam une bonne sunna, une bonne tradition, il aura sa récompense et la récompense de ceux qui la mettent en pratique jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire celui qui commence une œuvre qui est légiférée à la base dans la sunna. Il n'est pas venu avec une chose nouvelle. Il a fait une aumône. C'est une chose légiférée. Et si les gens le suivent dans cela, alors il aura la récompense de tous ceux qui le suivent dans cette œuvre. Mais il n'a pas inventé une nouvelle chose. Il n'est pas venu avec une chose qui n'est pas légiférée. Il a donc commencé une œuvre qui est légiférée à la base dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui fait cela, qui commence une œuvre qui est légiférée et que les gens le prennent pour modèle, que les gens le prennent pour exemple dans cela, il aura sa récompense et la récompense de ceux qui mettent en pratique cela jusqu'au jour de la résurrection. Donc ce hadith, il vise les moyens qui mènent à la pratique d'œuvres qui sont confirmées religieusement. Comme on a dit, il n'y a pas de contradiction dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute qu'il ne peut pas ouvrir la porte à tout le monde pour instaurer des sunnahs en islam. Sinon, chaque groupe viendra avec des nouvelles innovations, chaque groupe viendra avec des nouvelles choses, chacun instaurerait des choses en religion, et la communauté, elle se diviserait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit la division. Il a dit subhanahu wa ta'ala, « Inna alladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. » إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es en rien responsable. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Enfin, 16e, on tire comme bénéfice de ce hadith que l'ensemble des innovations sont des égarements. Elles ne font pas partie de la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont un mal, même si ceux qui les instaurent pensent que ce sont des bonnes choses.
Ce ne peut pas être des bonnes choses car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a qualifiées d'égarements et il a dit toute innovation. Il n'en a exclu aucune. Donc à partir de cela, on voit l'erreur de ceux qui ont divisé l'innovation en 5 catégories ou en 3 catégories. Qui ont dit l'innovation, elle peut être bonne, permise, détestable, interdite ou obligatoire. Ceci est une erreur, il n'y a aucun doute. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus savant des hommes concernant la législation d'Allah. C'est le plus loyal envers les serviteurs d'Allah. Et il n'y a pas plus véridique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc une fois que tu as écouté sa parole, toute innovation est égarement. Comment une personne peut venir après lui puis dire « Il y a parmi les innovations des choses bonnes, des choses permises, des choses réprouvables, des choses interdites ou des choses obligatoires ?» Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Elles sont toutes égarements. Toute innovation est égarement. » Donc celui qui instaure une innovation et qui prétend qu'elle est bonne, alors on lui dit « Soit cette chose que tu as qualifiée d'innovation, ce n'est pas une innovation, ou alors ce n'est pas une bonne chose et il n'y a pas d'autre choix. » Quant au fait que tu dises que c'est une bonne innovation, alors cela n'est pas possible, car il n'est pas possible de réunir entre ces deux choses. En effet, ceux qui ont dit qu'il y avait parmi les innovations des bonnes innovations, ils ont mentionné comme exemple des bonnes innovations, par exemple, le fait d'écrire le hadith et de le recueillir dans les livres. Ou alors ils ont mentionné, par exemple, parmi les bonnes innovations, le fait de faire des universités ou des centres pour apprendre la science. Et la réponse est que ceci, ce ne sont pas des innovations. Il n'y a aucun doute que ce sont des bonnes choses. Mais ce ne sont pas des innovations. Ce sont des moyens qui mènent à accomplir une chose qui est recherchée religieusement. C'est un objectif, une finalité qui est à la base recherchée et voulue religieusement. Donc ce n'est pas une chose qui a été instaurée en religion. Ce n'est pas comme l'innovation d'une adoration qui n'a pas de source dans la religion. Mais c'est une chose qui est voulue à la base religieusement. Le fait d'enseigner la science, de propager la science. Et ce qui a été fait autour de cela, ce ne sont des moyens qui nous permettent d'atteindre cette finalité qui est recherchée religieusement. Il y a donc une différence entre les moyens qui mènent à une chose et les finalités. Donc, ceux qui disent que ces choses sont des bonnes choses, en effet ce sont des bonnes choses, mais ce sont des bonnes choses qui sont légiférées car elles mènent à une finalité légiférée. Il est donc important de connaître la différence entre le moyen et entre la finalité. Quant à ceux qui ont instauré des choses qui ne sont pas légiférées dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme des formules de adhkar ou des manières de prier, et qui disent « nos cœurs s'apaisent lorsque l'on fait cela », et viennent ensuite dire que ceci sont des bonnes innovations. La réponse est que ceci ne peut pas être une bonne innovation, car ceci est une chose nouvelle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas adoré. C'est pour cela que ceci est rejeté, comme on l'a vu dans le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Donc, nous ce qui nous incombe, c'est de dire nous avons entendu et nous avons cru en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Toute innovation est égarement » et qu'il n'y a pas de bonne chose dans les innovations, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelqu'un vient et dit qu'une chose est une bonne innovation, alors où ceci n'est pas bon, mais c'est une chose mauvaise, même s'il pense que c'est une bonne chose, ou alors ceci en réalité n'est pas une innovation, mais c'est seulement un moyen qui permet d'atteindre une finalité légiférée en religion. Et il est impossible qu'il y ait une bonne innovation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a toutes qualifiées d'égarements, et ceci il est obligatoire à tout musulman d'en avoir la ferme conviction, car ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, c'est seulement une révélation qui lui est inspirée. Et une personne pourrait dire, et que dites-vous de la parole de Omar radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a réuni les gens derrière un seul imam durant le Ramadan pour la prière de nuit, et qu'il est sorti un soir et qu'il a dit en voyant les gens prier derrière un seul imam, quelle bonne innovation que celle-ci. Ils disent il l'a appelé innovation. La réponse elle est simple. C'est qu'il a dit cela, que c'est une innovation, que c'est une chose nouvelle, du fait qu'elle a été délaissée un certain temps. En effet, le fait de prier derrière un seul imam, cela est à la base légiféré dans la religion. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à accomplir cette prière avec ses compagnons radiallahu ta'ala anhum. Il a prié 3 soirs de suite avec ses compagnons radiallahu ta'ala anhum. Puis après, il a délaissé cela. Elle a donc été délaissée du temps du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens venaient à la mosquée, ils priaient seuls, ou par deux, ou par groupe, et ainsi de suite. Omar radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a vu cela, il a donc voulu réinstaurer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait légiféré quant au fait de prier derrière un seul imam. Il a donc réuni les gens derrière Tamim al-Dari et Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhuma. Il leur a ordonné de diriger la prière pour les gens en 11 unités durant les nuits de Ramadan. Donc sa parole, quelle bonne innovation, elle est relative. C'est-à-dire que c'est une chose nouvelle du fait qu'elle a été délaissée depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sous le califat de Abu Bakr, puis au début du califat de Omar, radiallahu ta'ala anhu. Donc ceci n'est pas une chose nouvelle en religion, car à la base, elle a été pratiquée par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons donc fermement que toute chose nouvelle en religion, qui n'a pas de base dans les textes du Coran et de la Sunna, alors ceci est une innovation et elle est égarement, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.